Sœurs et frères, en ces jours mauvais, où vous le constatez comme moi, le discours catastrophiste, décliniste règne, s'impose dans les esprits, eh bien je vous propose ce matin une parole pleine de joie, pleine d'espérance et pleine d'amitié. Est-ce que le programme vous convient ? Bien, tant mieux, parce que j'ai que ça. Hein. Mais cette parole ne vient pas de moi, parce que ça, ce ne serait pas très intéressant. Elle vient de l'apôtre Paul, qui écrit à ses amis de l'église de Philippe, ça se trouve en Macédoine. Les paroles que nous venons d'entendre de la part de l'apôtre Paul posent à ma prière une question pratique, une question importante. Qu'est-ce qui est le moteur de nos demandes à Dieu ? Est-ce la peur ? Est-ce la maladie d'un proche ? Est-ce la menace d'une mauvaise nouvelle ? Qu'est-ce qui nous mobilise quand nous prions Dieu ? Quand nous intercédons ? Eh bien, quand Paul prie pour l'église de Philippe, il n'y a qu'une chose qui le pousse, qui est son moteur, c'est la joie. La joie est le moteur intérieur de sa prière. Toutes les fois que je prie pour vous tous, je le fais avec joie. Mais qu'est-ce qui rend Paul si joyeux ? Je ne crois pas que Paul se fait l'apôtre d'une pensée du tout va bien, une pensée positive, parce qu'à l'inverse des déclinistes et des catastrophistes, vous avez les positivistes, les tout va bien, vous vous inquiétez pas. C'est pas ça. Il se fait pas non plus l'apôtre du bien-être intérieur. Non, ce qui remplit Paul de joie, c'est de voir les fidèles de cette église de Philippe participer à l'annonce de la bonne nouvelle, de l'évangile. C'est ça, et rien que ça, qui le remplit de joie. Pourtant, Paul aurait bien des raisons de se plaindre. Hein. Il est en prison, il le dit, il est persécuté à cause de sa foi. Mais au contraire, il voit dans cette situation une occasion de se réjouir et même de se rapprocher de ses amis philippiens. Il va rappeler le lien qui les attache les uns aux autres. C'est ainsi qu'il l'écrit, vous avez participé avec nous à l'annonce de la bonne nouvelle. Littéralement, je peux le retraduire comme ça, je suis dans la joie à cause de votre communion à l'évangile. Participation à la bonne nouvelle. Communion à l'évangile. Paul et ses amis philippiens, au-delà des épreuves, expérimentent la plus magnifique des libertés. Celle de vivre ensemble cette communion, c'est-à-dire ce sentiment puissant d'être habité par un message qui rend joyeux, l'Évangile. Faire un, être en communion, c'est ça que ça veut dire, hein, la communion, faire un avec la bonne nouvelle, avec la joie de l'Évangile. Eh bien, cela veut dire que le message du Christ fait partie de notre être. Témoigner de l'Évangile, évangéliser, ce n'est pas une mission, bien sûr ça l'est, mais pas premièrement une mission, ce n'est pas une feuille de route, ce n'est pas un projet d'église. On chercherait une activité à faire ensemble, ah ben tiens, si on évangélisait, non ? Témoigner de l'Évangile, c'est notre identité. C'est ce qui conduira Paul à écrire à d'autres chrétiens. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Malheur à moi. C'est-à-dire, malheur à moi si j'oublie qui je suis. Malheur à moi si ce que je fais ne correspond pas ou plus à ce que je suis. Et Paul ajoute, je suis certain de ceci. Paul dit ceci, hein. Dieu qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. C'est la deuxième bonne nouvelle de ce passage. Nous sommes non seulement en communion avec la bonne nouvelle, mais c'est Dieu qui veille à ce que cela ne s'arrête jamais. La fidélité de Dieu, pas la nôtre, la sienne, nous garantit que ce lien identitaire à Christ, à l'Évangile, qui s'inscrit au plus profond de notre être, ne peut être anéanti. Et même qu'il se renforce imperceptiblement tout au long du chemin de la vie. Derrière l'apparent chaos ambiant, derrière l'absurde qui semble être le catéchisme le plus prêché de notre monde, malgré nos infidélités, Paul affirme ici qu'il y a une histoire dans l'histoire, que les forces de vie, de communion, de pardon, de fraternité conduisent notre destinée à son terme, que la main de Dieu est fidèle. Quoi qu'il en coûte, ça c'est le quoi qu'il en coûte divin, je le préfère à l'autre. D'ailleurs, ce quoi qu'il en coûte divin, c'est le message de la croix. Dieu n'abandonnera pas son plan de salut. Élevez les regards vers ce jour de Christ, vers ce sur-horizon. C'est ce qui remplit de joie le cœur de Paul et j'espère le vôtre maintenant. Peu importe les mauvais jours, Paul a fondé sa vie sur une réalité non périssable. Et jusqu'au boutiste, le jour de Christ. Cette réalité qui est vivante en nous crée la possibilité d'une vie dans la confiance, même au travers des épreuves. Les aléas de l'histoire, les pandémies, les guerres, les famines, la mort elle-même, aussi angoissante soit-elle, ne peuvent mettre en question la force du lien qui nous attache à l'espérance du jour de Christ. Quel est ce jour de Christ? On pense spontanément à la fin des temps. Est-il le jour dernier? Est-ce, certains l'ont pensé, le jour de Pâques, le jour de la victoire sur la mort, le jour de Christ? Est-ce l'aujourd'hui du salut pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur? Sans doute un peu tout ça. Parce que nous sommes remplis de cette espérance qui est écrite, décrite magnifiquement par Paul ailleurs, où il dit aux Thessaloniciens en l'occurrence, ne nous affligeons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. En plus de la communion, qui est première, qui attache notre être à l'Évangile, en plus de la fidélité de Dieu qui conduit l'histoire et nos histoires jusqu'au jour de Christ, il y a une troisième bonne nouvelle dans les mots de Paul. Nous sommes invités à vivre cette communion, cette fidélité, les uns avec les autres. Ce que Paul appelle ici la tendresse de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas seulement unis à Christ, seul avec lui, bien au chaud, dans notre cocon spirituel, taillé sur mesure. Non, nous faisons route ensemble. Pas pour nous empoigner les uns les autres. Pas pour nous sermonner les uns les autres, pour nous juger. Mais pour manifester entre nous la tendresse qui est en Christ. Cela ne veut pas dire qu'il nous faut aimer comme Christ a aimé, parce que là, ça va être un peu difficile, hein ? Est-ce possible seulement ? Mais Paul ressent en lui, non pas simplement de la tendresse pour ses amis philippiens, il ressent en lui la tendresse du Christ pour les Philippiens. Ce n'est pas exactement la même chose. La tendresse de Jésus le Christ. Et si c'était ça, au fond, notre évangélisation ? J'en parlais hier soir avec les jeunes. Parler de notre rapport à l'islam, justement, aux musulmans. La tendresse de Jésus le Christ pour tous les hommes. N'est-ce pas cela qu'il faut traduire, d'abord, essentiellement ? On ne cherche pas à gagner des âmes comme si c'était un concours. Combien de convertis ? On entend ces questions. Nous cherchons à ressentir en nous l'amour que Christ avait pour les hommes qu'il a rencontrés, pour le monde, et à le partager autant que possible en parole et en acte avec tous. Je dois partir au Liban maintenant pour une semaine que j'aimerais belle, mais surtout au-delà de ça, j'aimerais que cette communion qui attachait Paul à son Seigneur Jésus et à ses amis, que cette communion soit aussi la nôtre et qu'elle soit le cœur même, l'essence même de notre témoignage chrétien. Je fais donc mienne la prière de Paul pour nous tous. Que notre amour abonde en clairvoyance, en pleine intelligence, pour discerner ce qui convient le mieux. Ainsi nous serons irréprochables pour le jour de Christ. Amen.